Deutsche Welle Forum der Kultur.
Cesaria Evora, la chanteuse capverdienne aux pieds nus décédée en 2011, a ouvert la voie à toute une génération d'artistes issus de l'archipel, parmi eux la jeune Mayra Andrade. C'est elle que la Maison des Cultures du Monde à Berlin a choisie pour faire l'ouverture du festival Wassermusik, consacré cet été à la lusophonie. Le parcours très cosmopolite de Mayra Andrade se reflète dans son quatrième album, Lovely Difficult, un album multilingue, teinté de swing, de fado, de bossa nova ou encore de jazz. Mayra Andrade est l'invitée de ce Forum des Cultures. Bonjour à tous. Alors, vous avez pas mal bourlingué depuis l'âge de 6 ans même. Vous avez quitté à cet âge-là le Cap-Vert. Et j'ai lu que vous aviez même vécu quelques années à Bonn, en Allemagne. Oui. Dans quel cadre et qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir?
J'ai vécu à Bonn parce que mon beau-père était ambassadeur du Cap-Vert. Écoutez, qu'est-ce que je garde de l'Allemagne? Un souvenir très différent de ce que j'ai pu vivre en Angola ou au Sénégal. Je pense que ma vie m'a vraiment préparée à devoir m'adapter assez rapidement à des contextes différents. Culturellement, l'Allemagne a été très intéressant. Je voyais énormément d'expositions. J'allais voir des concerts de musique classique dans des églises, dans des cathédrales. Enfin, c'est sûr que pour une ado, c'était pas le contexte le plus chaleureux qui soit. Parce que voilà, il faisait très très froid et Bonn, c'est très très calme. Je pense que si j'avais vécu à Berlin, ça aurait été différent. Mais voilà, je suis rentrée au Cap-Vert l'année où les ambassades ont déménagé à Berlin. Donc,
en 98, quand l'Allemagne, enfin quand Berlin est redevenue capitale.
Exactement, exactement. Un de mes grands souvenirs, c'est la maison de Beethoven. Je n'en pouvais plus parce que ma mère m'obligeait à faire le guide. À chaque fois qu'on recevait quelqu'un chez nous, il fallait que Mayra, qui aime la musique, aille parler de la maison de Beethoven aux invités. La maison de Beethoven qui se trouve à Bonn, d'ailleurs.
Et à cette époque, alors, vous disiez, vous aimiez déjà la musique et vous chantiez déjà aussi?
J'ai toujours chanté, en fait. Je suis née chanteuse. Voilà. À l'âge de 4 ans, j'ai réclamé ma première guitare et je me suis toujours sentie une artiste. Je voulais être chanteuse, danseuse et actrice.
Et comment est-ce que vous avez fait justement vos premiers pas sur la scène en tant que chanteuse?
À l'école. Au Sénégal, en Angola, il y avait toujours un moment où on faisait le spectacle de fin d'année. C'était le meilleur moment pour moi de l'année puisque je trouvais que j'étais plutôt douée quand il s'agissait de faire le spectacle. Donc les premières scènes, c'est pendant l'enfance, mais dans un cadre scolaire. Et la première fois que j'ai chanté en solo, c'était aussi dans un cadre scolaire, mais j'avais 13 ans. Et là, ma mère avait été absolument choquée parce qu'elle disait « Mais tu devrais être gênée, quoi. C'est ta première scène, et t'es là comme si t'avais toujours fait ça. Et t'as pas un petit peu honte ou t'es pas un petit peu gênée ?» Elle était choquée par ma désinvolture. Et moi, je lui disais « Mais voilà, ce n'est que faire justice à ce que j'ai toujours voulu faire. Quand je montais sur la table dans le salon de mes parents, j'étais déjà sur scène dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis née chanteuse. »
Et alors justement, en quoi vos origines capverdiennes et aussi vos voyages, et ce qui n'ont pas seulement été des voyages touristiques, influencent votre musique?
Ça influence avant tout ma façon de voir le monde et de me placer dans le monde. Donc à partir de là, j'ai un attachement qui est quand même très profond à mes racines, à la musique capverdienne. Comme toute bonne capverdienne, je ressens un besoin incontrôlable de parler de ce pays et de cette culture parce que dans mon enfance, j'étais obligée d'expliquer que le Cap-Vert existait, que ça se plaçait à tel endroit, qu'on y parlait telle langue. Maintenant, beaucoup plus de gens connaissent le Cap-Vert, grâce à la musique d'ailleurs, notamment par Cesaria Evora. Donc c'est une nécessité, un besoin d'exister aux yeux du monde.
Filha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Filha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na ilha de Santiago, tem um mano mente, tem cacá, nha nasce a come no Zezé, no Raul, lá de fundo, no beira da barca.
Alors, vous êtes originaire d'une des îles, parce qu'on dit toujours le Cap Vert, mais en fait, il y en a 10. Vous êtes originaire de l'île de Santiago. Quelle est un petit peu sa spécificité, ou est-ce qu'elle a une spécificité?
Elle est plus africaine que les autres. Et ça s'entend rythmiquement, ça se voit sur le visage de la population, qui est plus noire que sur d'autres îles. C'est l'île où la moitié de la population du pays vit. Donc on est à 250 000 habitants. C'est vrai que je viens de l'île de Santiago, je me sens profondément Badia. Badia, c'est la femme de Santiago. Mais mon père vient de Mindelo, l'île de San Vicente, d'où venait Cesaria d'ailleurs. Et c'est une île où je vais depuis toujours aussi. Et je découvre, moi, à chaque fois que je vais au Cap-Vert et que je me rends sur une île différente, je découvre des choses qui sont méconnues pour les Cap-Verdiens. Donc on est aussi isolés entre nous. Vous voyez, donc il faut recréer tous ces ponts et trouver la meilleure manière de stimuler cette effervescence culturelle qui parfois dort parce qu'elle est isolée sur un petit coin du territoire. Quoi.
Alors le Cap-Vert est devenu indépendant en 1975. Quel est le rapport des Cap-Verdiens avec le Portugal, l'ancienne puissance coloniale?
Les rapports sont très bons. Il y a énormément d'entreprises portugaises au Cap-Vert. Il y a énormément de Cap-Verdiens au Portugal. Le père de ma mère, donc mon grand-père, était portugais. Je vais au Portugal depuis que je suis toute petite, donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Je trouve que les Portugais ont également beaucoup souffert de la dictature de Salazar et que, comme disait Amilcar Cabral, on ne s'est pas battu contre le peuple portugais, on s'est battu contre le colonialisme. Je pense que la mentalité aussi des Portugais a énormément évolué. Quoi. C'est vrai que de temps en temps, on croise encore des gens qui regrettent un petit peu le temps colonial, l'empire. Mais bon, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Mes amis sont d'une autre génération et Lisbonne, qui est la capitale du Portugal, est une ville quand même très cosmopolite où toute la lusophonie se croise en permanence, que ce soit la musique capverdienne ou angolaise ou du Mozambique ou de la Guinée, le Brésil. C'est un pays qui a énormément évolué et que j'aime beaucoup.
Vous avez plusieurs fois évoqué, là auparavant dans cette interview, la chanteuse Cesaria Evora, qui représente à l'étranger un petit peu le Cap-Vert.
Un petit peu beaucoup.
Comment c'est justement pour les générations suivantes de se reconnaître son héritage et peut-être de se démarquer? Comment c'est pour vous?
Ça se fait sans effort. Ce que j'ai à dire sur Cesaria, c'est avant tout que j'ai une énorme sensation de gratitude envers elle. Pas comme chanteuse, comme capverdienne que je suis. Voir que mon pays existe pour beaucoup aujourd'hui grâce à elle, grâce à sa musique, ça n'a pas de prix. Ensuite, moi j'ai développé une relation d'amitié et de beaucoup de tendresse avec Cesaria, que j'ai rencontrée pour la première fois en Allemagne d'ailleurs, quand j'avais 12 ans. J'ai été lui apporter des fleurs sur scène, et après le concert, j'étais en loge et je lui ai dit que j'étais chanteuse. Et là, elle m'a donné le premier conseil que j'ai reçu en musique, c'est n'oublie pas que c'est le public qui décide ce qui sera fait de toi. Voilà, s'il te met en haut, s'il te laisse tomber. Suite à quoi, elle m'a offert un des bouquets de fleurs qu'elle avait reçus ce soir-là. Et c'était la première fois qu'on m'offrait des fleurs. Ça vous donne l'idée de l'attachement que je peux avoir pour cette dame.
Le jour se lève comme un rêve à peine.
Albums, l'album, vous chantez dans plusieurs langues, surtout dans le dernier, justement, Lovely Difficult, donc en créole capverdien, en portugais, en français et en anglais. Mm-hmm. Ça dépend de quoi, le choix de la langue ?
En fait, le choix de la langue est finalement secondaire. Dans cet album en particulier, j'ai voulu créer un espace pour que les rencontres que j'avais vécues à Paris sur ces 12 dernières années résonnent dans ma musique. J'ai demandé des chansons à des compositeurs pour la première fois qui n'avaient rien à voir avec le Cap-Vert. Et naturellement, ces chansons étaient donc en anglais ou en français. Il y a une chanson en portugais, c'est la seule en portugais dans cet album, que j'ai écrite pour ma mère, puisque ma mère et moi parlons en portugais. Donc je n'ai pas réussi à lui écrire une chanson en créole, je lui ai écrit une chanson dans la langue dans laquelle nous communiquons, qui est le portugais. Donc voilà, c'est un peu l'album qui représente mon vécu européen de ces 12 dernières années. Et je pense que ne pas faire ça aurait été très étrange, en fait. Me fermer à ça aurait été contraire à la démarche que je défends depuis le début, qui est d'une ouverture sans perdre l'essence de qui je suis. Mais je pense que mon essence va au-delà de la langue, même si j'éprouve un plaisir viscéral à chanter dans le créole capverdien.
Memória, tempo que vai, carrega, leva tanto alguém que não ama. Mostrar no mau mundo é mais tempo que história. Mostrar no mau tempo é mais teu que vida.
Voilà, c'est la fin du Forum des Cultures consacré à la chanteuse capverdienne Mayra Andrade. Je vous rappelle le titre de son dernier album, Lovely Difficult. Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre. C'était Guylaine Tapaz au micro. Vous pouvez réécouter tous nos magazines sur notre site internet dw.de/français. Restez à l'écoute de la Deutsche Welle. Bonne semaine et à bientôt.